baroque et classique, dans la France du XVIIe siècle, Olivier Lestis et Philippe Frétinier.
Bonjour, vous êtes à l'écoute de Radio Grand Ciel, l'émission baroque classique, l'art français au XVIIe siècle, en compagnie de notre invité permanent et principale source d'information, bien entendu, Philippe Frétinier. Lors de la précédente émission, Philippe, vous nous aviez dit vous nous aviez rappelé, parce que vous l'avez dit à plusieurs reprises, combien la période dite baroque, avec toutes les nuances que vous y mettez, avec tout de même la distance que vous prenez par rapport à ce terme. Et vous nous aviez rappelé notamment donc cette querelle des anciens et des modernes, c'est-à-dire cette tension entre le respect absolu, en quelque sorte, de tout ce que l'Antiquité avait apporté, et puis cette réinterprétation, voire cette distance, là aussi, prise avec les anciens. Vous nous aviez parlé notamment de La Fontaine, qui avait rompu, dans la littérature, une première fois avec les anciens. Et vous nous aviez aussi beaucoup, c'était pour introduire notamment la question de la sculpture et comment ces questions-là imprégnaient également le monde de la sculpture, l'art de la sculpture, notamment en parlant de Pierre Puget, qui était cet artiste central, notamment dans les jardins de Versailles, évidemment.
Oui, les modernes étant représentés de façon particulière par Perrault, c'est important à souligner parce que Perrault va participer, je crois que j'ai déjà parlé, je vais en reparler un petit peu, à la définition des programmes de sculpture, puisque dans les jardins de Versailles, le roi valide des programmes iconographiques qui sont fixés, et en général, sur proposition notamment de Perrault, de Lettré, de membres de la petite académie qui donnera par la suite, si ma mémoire est bonne, en 1668, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, dont le but est un saut en avant aussi dans la modernité d'une certaine façon, puisque le but de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, c'est justement de fixer l'usage du français dans les inscriptions, notamment aux façades des monuments. Donc Claude Perrault prend vraiment une part importante. On dit qu'il est architecte parce qu'il est associé à la fameuse colonnade du Louvre, qui justement est une sorte de retour au classique dans l'architecture, ce qui montre bien que la question ancien-moderne est plus compliquée qu'il n'y paraît en réalité, comme la question baroque classique est plus compliquée qu'il n'y paraît en réalité.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, les catégories qu'on fait sont des catégories qui semblent faciliter la pensée, mais qui perdent énormément d'informations et qui l'embrouillent finalement.
Voilà. Ouais. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier, donc, parmi les illustres figures des anciens, il y a évidemment Boileau, hein, mais il ne faut pas oublier que l'idée des modernes, ça n'est pas d'écarter les anciens, c'est au contraire d'y puiser une force créatrice auprès de l'inspiration des anciens et d'une certaine façon d'aller plus loin. C'est une idée d'ailleurs qui revient couramment dans l'histoire intellectuelle et l'histoire des arts, puisque par exemple au XIIe siècle à Chartres, avec les écoles de Chartres, il y a des vitraux qui, au transept de Sud qui illustrent ça, les évangélistes posés sur les épaules des quatre grands prophètes. Et l'idée, c'est en disant, on voit plus loin, mais parce qu'on est juché sur les épaules des prédécesseurs, hein, des géants. Donc ça, régulièrement, au fil de l'histoire des idées intellectuelles en Europe, et notamment en France, et puis aussi dans les arts. Et donc Perrault va jouer vraiment un rôle, puisqu'il est encore une fois chargé de réfléchir sur les programmes que le roi valide régulièrement, puisque il n'y a pas seulement des statues isolées. D'abord, il y a une vision d'ensemble hein, sur l'ensemble de la statuaire du parc, et puis il y a vraiment des programmes avec des groupes sculptés, notamment Apollon, qui est le groupe d'Apollon qui va orner la grotte de Tétis, qui va disparaître puisque la grotte de Tétis était située à l'emplacement du départ de l'aile nord du château. On va démolir la grotte de Tétis, bien malheureux pour nous parce qu'on a perdu sûrement un chef-d'œuvre, mais on peut quand même voir des parties du programme de la grotte de Tétis puisque les sculptures ont été récupérées, déplacées dans le parc et mises dans un bassin à l'intérieur d'une sorte de grotte. Ce programme est largement sculpté par Girardon, qui est vraiment un des phares de la sculpture du moment. Et il va un petit peu résumer tout ceci, c'est-à-dire que d'abord, probablement que les groupes de chevaux sculptés qui sont de part et d'autre et qui le sont toujours dans le nouvel aménagement du groupe d'Apollon, ont probablement été sculptés par les frères Marcis, ce qui montrait bien que le plus important, c'est le programme et l'esprit du programme qui est fixé au départ.
Oui, vous aviez évoqué déjà les questions de la grande commande pour le parc de Versailles. Oui.
Voilà. Et donc, il y a tout un processus d'élaboration assez complexe qui fait que c'est un mélange des idées de l'époque, le recours à la mythologie comme instrumentation politique par Louis XIV et Colbert, et puis en même temps de personnalités qui s'épanouissent, mais à l'intérieur d'un cadre très précis. Vous savez, comme disait le poète, la contrainte naît l'art.
Hein. Oui, tout à fait.
Dans ce groupe, il y a plusieurs intervenants. Probablement que, je crois avoir déjà expliqué, qu'on commence par faire un modèle, parfois en cire, c'est un sculpteur qui le fait. Ça tombe bien parce que Girardon est ce qu'on appelle aussi un maître d'œuvre, hein, donc sculpteur maître d'œuvre, habitué à diriger la réalisation d'un programme. Et puis ensuite, on fait une sculpture grandeur nature, quasiment en trois dimensions, en plâtre ou en terre. Et puis, in fine, il y a des artisans qui viennent réaliser la sculpture, hein, mais toujours sous la conduite du sculpteur qui a élaboré le programme. Donc déjà, vous voyez, c'est très difficile de résumer les choses à baroque ou classique ou ancien et moderne, puisqu'il y a tout un ensemble, il y a toute une chaîne d'individus qui participent à l'élaboration de l'œuvre.
Oui, une chaîne d'individus, une configuration intellectuelle,
voilà.
Des choses qui viennent comme ça se regrouper à un moment donné avec plein de raisons différentes, dont la raison politique dont vous parliez aussi,
voilà.
Celle où le roi Soleil instrumentalisait la mythologie dans le cadre d'un vrai programme, une vraie proposition de sa place dans le monde, quoi,
voilà,
quelque chose comme
voilà,
ça.
Hmm. Voilà. Et donc, vous voyez que, à travers ce que je viens de dire, c'est en fait la convergence de tout un ensemble d'éléments, un contexte, j'ai été pour dire intellectuel, disons culturel en tout cas, qui est celui de prolongement d'ailleurs de la Renaissance. Hein. La source, c'est vraiment l'Antiquité classique, qui continue à être une source importante, enfin la source importante. C'est aussi la volonté politique et idéologique du roi. Donc là, on n'est pas dans une problématique baroque ou classique, même si l'âge classique pour certains historiens ou l'âge baroque pour d'autres est un moment particulier d'expression des pouvoirs politiques, pas seulement en France. Mais il n'empêche que c'est vraiment un programme idéologique, donc on n'est pas dans baroque ou classique ou ancien moderne. J'insiste pour vraiment dire que toutes ces grilles de lecture auxquelles on est habitué, peut-être par facilité, ne sont vraiment pas opérantes. Et puis il y a l'intervention de personnalités diverses qui s'insèrent pratiquement toutes dans un ensemble de conventions, entre guillemets, qu'elles doivent respecter. Et néanmoins, à l'intérieur de ces conventions, elles arrivent à exprimer leur personnalité. D'ailleurs, c'est pas là aussi dans l'histoire de la sculpture, comme nous sommes chartrains, je vais revenir à la cathédrale de Chartres. Si vous allez, par exemple, au portail nord, vous verrez bien que les différentes sculptures révèlent qu'il y a des individualités, même si à l'époque, elles n'étaient pas mises en avant, comme elles le furent par la suite. Donc, c'est pas nouveau non plus. Hein. C'est-à-dire que chaque époque produit des personnalités, pas que des personnalités, mais des personnalités de plus ou moins premier plan, et qui arrivent à exprimer leur talent personnel dans des cadres tout à fait contraints. La notion de programme est vraiment importante. D'ailleurs, en peinture, on a eu la même chose, parce que quand il ne s'agit pas de peinture de chevalet, la peinture de chevalet qui prend vraiment son essor tout particulièrement au XVIIe en France. J'ai parlé des galeries décorées, si vous vous souvenez, où là aussi il y a un programme. Le peintre, avec son atelier, va devoir respecter un programme fixé par une histoire.
Qui vient... Par une histoire et par une commande à chaque fois.
Voilà,
c'est-à-dire donc que par une... c'est pas quelque chose qui vient ex nihilo de la seule volonté de l'artiste. Il répond à une demande.
Il répond à une demande, laquelle est formalisée par un programme. Et il va pouvoir exprimer quand même son talent. Et l'autre source, une des autres sources de commandes, aussi bien dans la peinture que dans la sculpture, c'est l'aspect religieux de la statuaire, où là aussi il y a une détermination de l'objet, du sujet, avec une volonté aussi d'un regard posé d'une certaine façon sur ce sujet, et qui donc va dicter l'expression dans ces grandes lignes dans laquelle l'artiste va s'exprimer.
Alors on va revenir sur tous ces points. On va faire une petite pause musicale. Je vous laisse présenter le morceau de musique que vous avez choisi.
On continue sur la musique de Lully, parce que ça tombe bien. On continue notre petit détour par le clavecin, parce qu'il y a des airs de Lully qui ont été transcrits pour le clavecin par Jean-Henri d'Anglebert, dont j'ai déjà parlé des liens avec Lully. Et ça a aussi un intérêt d'entendre ça, d'abord parce que c'est de la très belle musique pour clavecin, et puis ça montre que, vous savez, à l'époque, bon, on n'avait pas les moyens dont on dispose aujourd'hui pour écouter de la musique quand on veut. Et donc, finalement, pour entendre, quand on n'était pas à Paris, les opéras ou les airs d'opéra de M. de Lully, fallait les jouer sur son clavecin. Et donc, voilà pourquoi Jean-Henri d'Anglebert a transcrit cette pièce pour le clavecin.
Thank you.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Grand Ciel pour l'émission Baroque ou Classique, l'art français au XVIIe. Je ne sais pas si on peut continuer à l'appeler Baroque ou Classique d'ailleurs, puisque ce sont des termes que vous remettez en cause et vous venez de le faire encore juste avant la pause musicale. Vous parliez également donc de, en quelque sorte, cette ère du temps, de ce dans quoi les artistes sont pris, de ce dans quoi une œuvre prend place avec tout un tas de contraintes qui sont à la fois celles des contraintes esthétiques, des contraintes politiques, des contraintes intellectuelles. Mais vous disiez aussi qu'à l'intérieur de ce système de contraintes, des personnalités s'expriment de manière tout à fait forte, et notamment l'un des sculpteurs qui vous tient particulièrement à cœur sur cette période-là, c'est Pierre Puget.
Oui, je vais revenir sur Pierre Puget, mais par rapport à ce que vous introduisiez, je ne suis pas original en questionnant les terminologies et les tiroirs de l'histoire de l'art baroque ou classique. Il y a d'autres gens éminents qui l'ont fait avant moi, et je crois déjà avoir mentionné, et je ne résiste pas au plaisir de le rementionner parce que j'ai beaucoup de considération pour son travail, un historien de l'art qui s'appelle Alain Méraud, qui est plus spécialisé sur la peinture française au XVIIe, à propos de laquelle il a écrit des ouvrages de référence sur le Sueur, sur la peinture française au XVIIe, sur Poussin. Et il a écrit un petit livre, petit par le format, pas par le contenu, qui s'appelle « Généalogie du baroque », et lui aussi questionne beaucoup ça à la suite d'autres. On est un certain nombre, je ne me mets pas au niveau d'Alain Méraud, mais on est un certain nombre à questionner ça, parce que ça ne marche pas, comme je suis en train d'essayer de le démontrer. Mmh. Alors justement, la question des personnalités vient d'autant plus questionner cela. Des fois, c'est d'ailleurs aussi lié à la géographie. Par exemple, Puget, il est marseillais, il débute à Marseille, il va aller à Gênes, où il va travailler pendant une dizaine d'années à peu près, si ma mémoire est bonne. Après avoir fait des passages à Rome, il va aller souvent à Rome, il va être très influencé par Pierre de Corton et par Michel-Ange. À Toulon, on lui commande un porche qu'on peut toujours voir, qui est sur le devant de la façade de l'hôtel de ville, où tout en respectant les codes de l'époque, il va les bousculer, il va utiliser deux atlantes qui vont supporter un balcon bien en avant de la façade. Et on voit très bien déjà une expression très personnelle à ce moment-là. En plus, ça va être renforcé aussi par le fait qu'à l'arsenal de Toulon, on construit des bateaux, et on va lui demander de faire des modèles pour les sculptures qui ornent les proues des bateaux, ainsi que les poupes d'ailleurs, des sculptures moins ambitieuses à la poupe qu'à la proue, mais néanmoins d'où l'expression figure de proue, où là on pourrait dire qu'effectivement, ceux qui sont tenants à tout prix de l'expression baroque, ces sculptures sont un peu débridées pour mettre en avant la puissance du bateau, du navire. Donc, on pourrait qualifier ça de baroque.
Bon. Parce que, oui, vous disiez que l'une des caractéristiques qu'on pouvait prêter au baroque, pour ceux en tout cas qui sont tenants de ce terme, c'est toutes les décorations, tous les débordements, aujourd'hui, ouais. Pour être au coco, vous faisiez référence à la perle dont la forme n'est pas régulière, voilà. Boronco, etc. Voilà. Enfin,
d'une certaine façon, parce que ça me fait penser à l'autre sculpteur que je vais citer, qui a en commun d'ailleurs avec Puget d'être architecte, décorateur, c'est Le Bernin, que d'ailleurs Puget évidemment admire. Puget, de ce point de vue-là, c'est le Bernin français. C'est-à-dire que c'est effectivement un artiste qui pousse l'exploration des formes jusqu'aux limites que l'époque peut admettre. Donc, effectivement, par rapport au canon classique qui sous-entendent dans l'inconscient une certaine pureté, une certaine retenue, on a affaire à des formes nettement plus libres. Mais c'est sans le fait d'individualité, parce que, évidemment, j'en ai déjà parlé, quand on pense à Bernin en sculpture, on pense à la transverbération de Sainte Thérèse.
Et forcément, oui.
Appelée plus fréquemment l'extase de Sainte Thérèse. Et ça fait croire que ce sont des œuvres tellement emblématiques, qu'elles deviennent phares, et c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est le reflet d'une époque, alors qu'en fait, c'est la personnalité poussée à l'extrême d'un talent.
Mais c'est presque l'exception qui fait la règle, en fait.
Pratiquement, hein. Oui, d'une certaine façon. Hein. Alors, donc, en Italie, évidemment, donc, il y a le Bernin, qui va d'ailleurs venir à Paris, qui va faire une statue de Louis XIV. Au départ, on lui demande même, d'ailleurs, de faire des projets pour fermer la fameuse cour carrée, ce qui deviendra la colonnade Perrault-Lebrun. Bon. C'est d'ailleurs intéressant de voir que le Bernin va soumettre trois projets différents, puisque les deux premiers ne plairont pas. Le premier, on pourrait dire que là aussi, c'est baroque, parce qu'il y a des courbes, des contre-courbes. Le deuxième aussi, d'ailleurs. Et puis, quand on voit le troisième, en fait, il est beaucoup plus retenu. Il est
beaucoup plus sage, oui.
Beaucoup plus sage. J'ai d'ailleurs appelé l'attention de nos auditeurs sur le fait de regarder le dessin de cette façade et de repenser après à la façade de Levaux à Versailles. Donc, le veau qui lui aussi est une figure un peu particulière par rapport à Mansart ou à Le Mercier, parce que le veau déploie aussi des formes. On peut penser évidemment au modèle qu'a le vicomte. On pourrait dire que voilà, c'est pareil, la grande coupole sur la façade sur jardin de le vicomte a quelque chose de baroque. Mais c'est plus l'expression de l'individualité, c'est ça que je veux souligner. Et d'ailleurs, quand je parle de la géographie pour Puget, c'est pour dire que voilà, il est à part de tout ce qui se passe à Paris. Il va finir par y monter, comme je l'ai expliqué. Il va travailler pour Versailles, où il va fournir notamment le fameux Milon de Croton qu'on peut voir au Louvre maintenant. C'est la conjonction d'une personnalité, des fois d'une situation excentrée, je dirais, qui fait que on a affaire à une singularité. Hein, c'est vraiment la conjonction de personnalité et isolement, par exemple, provincial de Puget, qui fait qu'il n'est pas tout à fait dans le mouvement de ce qui se fait au centre. C'est pour ça que parler d'école régionale, ou même nationale, hein, combien de fois dans l'histoire de l'art on parle l'école de Paris, l'école de ceci, l'école de cela, ça, pour moi, ça n'a pas non plus beaucoup de sens. Je vais donner un exemple en peinture qui va être parlant. La Lorraine, hein, donc début 17e, il y a vraiment des grands talents. Georges de la Tour, Jacques Callot, connu pour ses gravures, notamment la guerre de 30 ans, qu'on voit très bien, les ravages de la guerre. Et puis, peut-être le troisième et moins connu, Jacques de Bellange, qui est vraiment des figures extrêmement, alors là on pourrait dire baroque, extrêmement élaborées, complexes, des figures allongées, presque déformées dans leur exagération. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Georges de la Tour, Jacques Callot et Jacques de Bellange? Je ne vois pas. Sauf qu'ils ont vécu quasiment à la même époque, dans la même région, qui était une région un peu à part de la France, où il y avait une cour brillante, hein, et qui a permis l'expression justement de plusieurs artistes à travers des commandes. Donc vous voyez que les tiroirs habituels, pas plus que baroque classique ou ancien moderne, école régionale, ça veut dire quelque chose. Il y a par contre des personnalités à l'extérieur de Paris, pour prendre la France au XVIIe, en peinture aussi, je les ai d'ailleurs mentionnés, j'avais parlé de Toulouse, je crois, si ma mémoire est bonne, par exemple, de Lyon. Bon, je ne vais pas citer les artistes, mais c'est l'occasion de souligner que la géographie joue un rôle dans la mesure où, justement, des personnalités à l'écart des centres ont peut-être plus de latitude pour exploiter les ressources propres. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis.
Si, on comprend bien l'idée de quelque chose effectivement qui permet le pas de côté parce qu'ils sont à côté déjà, voilà. En quelque sorte, quoi. Voilà. Il y a une espèce d'isolement qui leur permet d'avoir une créativité peut-être plus importante.
Alors c'est un pas de côté, mais pas totalement de côté, parce qu'on retrouve évidemment les préoccupations de l'époque, on retrouve les lignes directrices qui président à l'expression des différents arts. Donc, ils ne sont pas totalement en dehors, hein, mais ils sont d'une certaine façon, dans une périphérie qui probablement les bride moins.
Philippe Frétinier, donc peut-être que ça serait intéressant pour la suite de notre émission, enfin pour la prochaine émission, qu'on reprenne sur cette question des personnalités justement, puisque vous en avez cité quelques-unes. Vous avez notamment parlé aussi de Pierre Puget, de sa place particulière. Donc nous reviendrons sur ces points-là dès la prochaine émission. En attendant, je vous remercie beaucoup et nous saluons tous nos auditeurs. Juste présenter rapidement peut-être le dernier morceau de musique de cette journée.
Bon, on est toujours dans les airs d'opéra du Lully par Jean-Henri d'Anglebert au clavecin.